Tome 3, chapitre 19. Une noce. Bélinde et M. Vincent ne pouvaient s'accorder sur l'étendue des droits que leur assurait le traité, de manière qu'ils étaient toujours en dispute. Ils s'accusaient l'un et l'autre de le rompre. Malgré toutes ces discussions, au bout de quelques semaines, M. Vincent sut, par son adresse ou par son propre mérite, gagner l'estime et l'amitié de Bélinde. Elle était dans la plus favorable disposition pour M. Vincent. Il proposa un jour une grande promenade à cheval. On adopta sa proposition et l'on forma le projet d'aller le lendemain voir les rochers de Brigham's Crags. Le lendemain matin, ils arrivèrent tous ensemble près de Brigham's. M. Percival, qui était avec eux, s'écria « Que vois-je sur le sommet d'un de ces rochers ?»« Cela ressemble à une statue, » dit M. Vincent. « Il faut qu'on l'y ait placé depuis la dernière fois que nous y vîmes. »«
Je crois que votre statue y est montée elle-même, » dit Bélinde, « car je crois la voir descendre. Ne la voyez-vous pas remuer ? Mais à présent, je crois remarquer que c'est un homme faisant l'exercice avec un fusil, pour s'amuser, ou plutôt pour notre amusement. Ne voyez-vous pas plusieurs personnes qui le regardent ?»«
Je jure que c'est une femme, » dit Vincent.
« Non, sûrement, » répondit Bélinde. « Ce ne peut être une femme. »«
Ce n'est cependant rien moins que Mistress Freck, » reprit M. Percival. En effet, c'était Mistress Freck qui, en chassant avec plusieurs jeunes gens, était montée sur le rocher et s'amusait à faire l'exercice comme un soldat. Lorsque la troupe d'Oakley Park fut près du rocher, Bélinde entendit la voix d'une femme et elle reconnut Mistress Freck en habit de cheval très leste.
« Miss Morton est avec elle, je crois, » dit M. Vincent.
« Pauvre fille, que fait-elle là ?» dit Bélinde. « Je crois qu'on veut la forcer à monter aussi sur le rocher. Regardez un peu comme Mistress Freck la tire par le bras. » En approchant, ils entendirent Mistress Freck rire aux éclats de la peur de Miss Morton.
« Nous aurions mieux fait, » dit Bélinde, « de passer de notre côté. » Mistress Freck m'a juré une haine éternelle et je tremble qu'il ne lui prenne la fantaisie de me faire monter sur la pointe de ce rocher pour se venger de moi.
Elle n'aura pas cette audace, dit M. Vincent avec vivacité. Comptez sur nous pour vous défendre.
Je ne doute pas de votre bonne volonté, repartit Bélinde, mais je ne veux point affronter ce péril pour vous donner le plaisir d'être mon défenseur. En disant ces mots, elle tourna la tête de son cheval.
« Vous ne vous en direz point, miss, » reprit Vincent en arrêtant son cheval. « Songez, madame, que nous ne pouvons pas nous en aller. Lady Anne, son mari, ses enfants sont venus ici pour vous. Vous ne voulez point leur ôter tout le plaisir de leur promenade. »«
Nous la recommencerons un autre jour, » dit Bélinde, « et je suis sûre que vous aurez la bonté de venir avec moi, quoique vous soyez fâchée dans ce moment-ci de me voir éviter le danger. »
Miss Portman ne doit pas être surprise de voir la vivacité de M. Vincent, dit en riant M. Percival. C'est un héros amoureux, et vous savez que dans tous les romans, un héros ne peut pas être avec sa noble dame sans qu'il leur arrive quelque aventure. Il doit sacrifier ses jours pour les siens, et ensuite la reconnaissance l'engage à lui donner la main.
La reconnaissance, interrompit M. Vincent, ce n'est pas un héros de mon caractère qui s'en contenterait.
« Oh, ne vous alarmez point !» reprit M. Percival, toujours en riant. « Il me semble que Miss Portman n'est point tentée de vous offrir le choix. Nous devons tous à présent regretter qu'elle vous ait ôté l'occasion de combattre pour elle ou de la délivrer de quelque horrible danger. Il est si agréable d'être le héros ou la héroïne d'un roman.
« Comme cette pauvre Miss Morton criait !» dit Bélinde. « Quelle peur elle avait !»«
Je la plains, » dit M. Vincent. « Mistress Freck lui fait mener une singulière vie. »«
Elle est aussi digne de blâme que de pitié, » dit M. Percival. « Ne savez-vous pas son histoire ?»«
Miss Morton a quitté toutes ses amies pour vivre avec Mistress Freck. En reconnaissance de cet abandon, celle-ci l'a privée, par tous ses conseils, de l'estime et de l'affection de ceux qui l'aimaient. Miss Morton est orgueilleuse et faible et par conséquent facile à tromper. » Après 1000 folies qui l'ont fait tourner en ridicule, elle s'est laissée aimer par un jeune officier. Miss Morton avait un parent qui lui était encore attaché. C'était un honnête et respectable ecclésiastique. Il essaya de la ramener dans le chemin de la vertu.
mais Mistress Freck, furieuse de voir son influence combattue, employa toute son adresse à détruire l'effet des bons conseils de cet homme. Voyant que ses moyens ne réussissaient pas, elle fit tant par son intrigue qu'elle obtint le renvoi de ce pasteur. Le malheureux avait une famille nombreuse. Il fut obligé de sortir du pays pour pouvoir la faire subsister. Depuis ce moment, elle est tellement détestée de tous les habitants du village qu'elle a privé de ce bon pasteur qu'il serait dangereux pour elle d'y passer. Voilà un trait de la vie de Mistress Freck. Ce fut cette histoire, dit Monsieur Vincent, qui m'a fait changer d'opinion sur elle. Jusqu'alors, je l'avais toujours regardée comme une femme qui aurait une mauvaise tête, mais un bon cœur, et qui se nuisait à elle-même sans nuire aux autres. Il est difficile dans le monde, dit Monsieur Percival, et particulièrement aux femmes, de se nuire à elles-mêmes sans nuire aux autres. On commence par des plaisanteries et on finit par des méchancetés. Elles défient le monde se venge en les excommuniant. Elles désespèrent de retenir de cet arrêt et font leur unique occupation et l'objet de leur ambition, du plaisir perfide de troubler la sécurité vertueuse des autres femmes. Mistress Freck n'est pas heureuse, dit Belinda, quoiqu'elle affecte une gaieté folle. Et puisque nous ne pouvons pas changer sa manière en la plaignant ou en la blâmant, nous ferions mieux de ne plus nous occuper d'elle. Permettez-moi de vous dire, reprit M. Vincent, que la méchanceté de Mistress Freck n'a pas eu la suite qu'elle désirait. Ne savez-vous pas, M. Percival, que M. Morton a été placé par un honnête jeune homme ? J'en suis charmé, dit M. Percival, mais quel est cet homme généreux ? Je voudrais le connaître. Je le voudrais aussi, dit M. Vincent, c'est M. Hervé. Clarence Hervé, peut-être ? Oui, Clarence était son nom. Personne, dit M. Percival, n'aime à faire autant de bien que Clarence Hervé. Il est vrai que personne n'est plus capable que lui d'une action généreuse, dit Belinda à voix basse. Elle ne put louer Clarence Hervé sans rougir. La conversation changea et Miss Portman oublia Clarence Hervé, dont elle admirait la générosité en même temps qu'elle blâmait la légèreté. Elle traita M. Vincent avec plus de bonté qu'à l'ordinaire. Peut-être entrait-il dans ce procédé un peu de dépit de l'amour de Clarence. On passa la soirée dans les jardins et M. Vincent avoua que jamais le temps ne lui avait paru aussi beau. « Quoi, jamais, même en Amérique ?» dit M. Percival. « Je ne croyais pas que vous puissiez en convenir. Ne vous souvenez-vous plus de tous les éloges que vous avez donnés au climat et au paysage de la Jamaïque ?»« Oui, mais mon goût est tout à fait changé. » Je me rappelle le temps où vous croyez impossible que votre goût pût changer. Vous m'avez dit bien souvent que l'aspect de toutes les beautés de l'ancien monde ne pourrait toucher votre cœur. Miss Portman et vous avez opéré ce changement en moi. Les premières amours rendent souvent un homme ridicule, dit-il en rougissant. Belinda rougit aussi. Un premier amour, dit M. Percival, n'est pas nécessairement plus ridicule qu'un second. Mais il a plus de chances contre lui. Souvent, ce qui le fait naître est plutôt un hasard que le vrai mérite de l'objet aimé, et c'est une folie de penser qu'il doit être toujours durable. Ne croyez-vous pas, dit Belinda, qu'il y a cependant de la délicatesse à ne pas penser à un second amour quand on a déjà éprouvé un sentiment ? Cette délicatesse n'est-elle pas le garant du bonheur de la société ? Je crois au contraire, répondit M. Percival, que cette délicatesse doit plutôt contribuer à son malheur. Car je sens par moi-même que si je n'avais pas oublié l'objet de mon premier amour, qui ne méritait peut-être pas une aussi vive tendresse, je me serais figuré que jamais je n'aurais pu trouver le bonheur et je n'aurais pu ressentir qu'une froide estime pour Lady Anne, qui fait à présent le charme de ma vie. Ainsi donc, vous voyez, Miss Portman, que cette délicatesse pourrait être taxée d'affectation et qu'elle peut très rarement rendre heureux. Je vois, dit Belinda en souriant, à la manière dont vous prononcez ce mot délicatesse, que vous ne croyez pas m'avoir persuadée. Je veux donc moi-même vous rendre les armes. Heureux ceux, dit M. Percival, que des raisonnements peuvent convaincre. Il y a tant de personnes qui ferment leur esprit à la conviction et qui finissent par dire comme ils ont commencé. C'est mon opinion, j'ai toujours pensé ainsi et je penserai toujours de même. M. Vincent aimait beaucoup M. Percival, mais il sentit redoubler dans ce moment son affection pour lui. Quoique Bélinde n'eût jamais désigné Clarence Hervé à M. Vincent, cependant elle lui avait avoué qu'avant de venir à Oakley Park, son cœur n'avait pas été insensible au mérite d'un homme aimable et estimable à la fois. Depuis ce jour, M. Vincent s'aperçut qu'il plaisait de plus en plus à Bélinde et qu'elle recherchait davantage sa société, et il espéra que, possédant son estime, il obtiendrait bientôt son amour. Lady Anne lui répétait toujours qu'il fallait laisser à Bélinde le temps de la réflexion ou qu'il perdrait tout. C'était avec peine que M. Vincent retenait son impatience, mais il sentait la justesse du conseil de son ami. Ses affaires étaient au même point à la fin de septembre. Lady Anne Percival entra un jour dans la chambre de Bélinde, un ruban à la main. « Savez-vous, lui dit-elle, que nous avons une noce aujourd'hui ? On vient de m'envoyer ce ruban. Vous vous souvenez sans doute de Lucie ? Cette jolie fille épouse Juba, qui était amoureux d'elle. Monsieur Vincent leur a acheté une petite ferme dans le voisinage. Mais regardez, ma chère, ne voyez-vous pas la noce passer ?» Elles se mirent à la fenêtre et virent en effet une troupe de villageois qui revenaient gaiement de l'église. Lady Anne fit dresser une tente dans le parc afin que cette heureuse journée se terminât par des danses. Toute la compagnie s'y rendit. Là, Bélinde n'entendit que l'expression de la joie et de la reconnaissance qu'inspiraient les bienfaits de M. Vincent. Juba, dans quelques couplets, chanta sa gratitude et son amour. Bélinde entendit avec plaisir et étonnement son nom uni à celui de M. Vincent. Lady Anne demanda les couplets de Juba. C'était un mélange de son patois sauvage et de la langue anglaise. Il peignait avec force les tourments que Mistress Freke lui avait fait éprouver. Et ensuite, passant rapidement au bonheur qu'il éprouvait dans sa nouvelle condition, il remerciait vivement Miss Portman de l'avoir délivré de cet horrible malheur. Il finissait en lui souhaitant toutes sortes de prospérité et surtout d'être heureuse en amour. Dès qu'il eut chanté, il offrit à Bélinde l'instrument américain qu'il avait travaillé avec tant de zèle et de peine. Elle l'accepta en jetant sur M. Vincent un coup d'œil qui l'enchanta. Tout à coup, on entendit le bruit d'une voiture qui traversait le parc. Bélinde tourna la tête et découvrit à travers les arbres la livrée de Lady de la Cour. « Grand Dieu ! S'écria-t-elle, c'est la voiture de Lady de la Cour ! Serait-ce elle-même ? » La voiture arrête et Mariette en descend précipitamment. Bélinde s'avance vers elle. Mariette était dans une grande agitation. « Oh, Miss Portman, dit-elle, ma pauvre maîtresse est bien mal. Elle m'a envoyée pour vous chercher. Voilà sa lettre. Chère Miss Portman, j'espère que vous ne refuserez pas de venir. Elle a été bien souffrante et elle souffre encore beaucoup, mais elle serait mieux si elle vous voyait. Je vous dirai tout, mais lorsque nous serons seuls et lorsque vous aurez lu sa lettre. » Miss Portman, accompagnée de Mariette, tourna ses pas vers la maison. Elle apprit, chemin faisant, que Lady de la Cour avait eu recours au charlatan qui lui inspirait une aveugle confiance, que cet homme lui avait toujours refusé de faire l'opération qu'elle était résolue de subir. Il en craignait le danger et il lui persuada d'essayer encore des remèdes dont il promettait merveille. Nous ignorons, dit Mariette, quelles furent ces drogues, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'elles affectèrent sa tête de la manière la plus alarmante. Dans son délire, elle vous appelait souvent et vous parlait comme à l'amie la plus tendre. Mais lorsqu'elle avait sa tête, elle ne prononçait pas votre nom et ne souffrait même pas qu'on le prononçât devant elle. Un jour, je lui disais combien je désirais de vous voir auprès d'elle, elle me lança le regard le plus terrible. « Lorsque je serai dans le tombeau, Mariette, s'écria Milady, il sera temps que Miss Portman revoie cette maison, et alors il sera temps aussi que vous exprimiez votre attachement pour elle. » Telles furent les propres paroles de Milady. Elles me frappèrent d'étonnement et je n'osais rien répondre. J'avais déjà soupçonné Lady de la Cour d'être jalouse de vous. Cela me parut extraordinaire d'après la manière d'être de Milady avec Milord. Et je vis bien clairement alors que cela seul vous avait forcé de nous quitter. J'ai su depuis que le domestique de Sir Philippe, qui me fait sa cour, sans, je vous jure, que je lui ai jamais donné le moindre sujet d'espoir, que Champfort était la cause de tout cela, qu'il avait répandu une foule de mensonges sur les billets de banque que Milord vous avait donnés, et qu'il avait fait accroire à Milady qu'aussitôt après sa mort, vous épouseriez lord de la cour, et mille autres calomnies qu'il confia aux domestiques de Sir Philip Baddely et qui revinrent à ma maîtresse. Maintenant, madame, je dois vous dire que ce domestique de Sir Philip s'est conduit admirablement dans cette affaire. Lorsque je lui peignis l'horreur de pareils mensonges, il m'assura qu'il n'avait agi que dans l'intention de servir son maître, et il m'offrit de lui-même d'aider à démasquer cet hypocrite de Champfort avec quelques bouteilles de claret et un peu de flatterie. Dès que Champfort fut animé par le vin, le domestique de Sir Philip parla de Milord, de Milady et de Miss Portman. Et il demanda pourquoi Lord et Lady de la cour se voyaient plus souvent depuis que vous aviez quitté la maison. Champfort lui dit avec ses jurements ordinaires que jamais, tant qu'il vivrait, Milord et Milady ne se raccommoderaient. C'est pour cela, dit-il, que j'ai fait renvoyer Miss Portman, car depuis qu'elle a introduit cette petite Hélène chez nous, Milord est un tout autre homme, et je crois en vérité qu'il aurait abandonné son vin, ce qui ne me convient pas du tout. Si Milady pouvait reprendre de l'empire sur lui, je serais bientôt chassé. Non, Milord et Milady ne se réconcilieront jamais tant que je vivrai. Dès que j'eus appris cette profession de foi, je l'écrivis et j'en fais attester la vérité par le domestique de Sir Philip Baddely. Lorsque Lady de la cour lut cette lettre, elle fut atterrée et si indignée d'avoir été la dupe d'un infâme valet, qu'elle m'envoya sur le champ chez Milord pour lui demander le renvoi de Champfort. Milord murmura, parce que sa femme avait prononcé le mot « je le veux ». Je crois qu'il aurait fait de lui-même si on ne l'eût pas exigé de lui. Il répondit enfin « Lady de la cour, je ne suis pas un homme à être mené par une femme. Je garderai ou je renverrai mes domestiques suivant mon bon plaisir. » Il sortit en disant ces mots. Ma maîtresse fut irritée de ce refus. Sa fièvre redoubla et la mit dans le plus grand danger. Elle refusa de voir Milord, à qui Champfort persuadait que cette maladie était feinte. C'était assez vraisemblable, puisque personne que moi n'entrait dans la chambre de Milady. Au bout de quelques jours, elle se réveilla en criant « Chère Belinde, vous voilà donc enfin !» Elle ouvrit ses rideaux et parut étonnée de ne voir personne dans la chambre. Je suis sûre qu'elle espérait vous y trouver. Ce fut alors que j'osai parler de vous et de l'assurer que vous l'aimiez encore. Je lui racontai votre histoire avec Mistress Luttridge et Mistress Freck. Elle en fut fort surprise. Dès cet instant, Milady ne fut pas un instant sans penser à vous et sans vous désirer. Un jour, Milord me rencontra sur l'escalier, me demanda des nouvelles de ma maîtresse et pourquoi elle n'envoyait pas chercher un médecin. « Le médecin qui lui ferait le plus de bien, Milord, lui dis-je, serait Miss Portman. Car j'ose vous assurer que jusqu'à ce qu'elle soit revenue, ma maîtresse sera toujours plus souffrante. » « Et pourquoi ne revient-elle pas, cette jeune personne? Ce n'est pas moi qui m'y oppose, car je désire de tout mon cœur qu'elle soit ici. » « Il est impossible, Milord, repris-je, après tout ce qui s'est passé, que Miss Portman désire revenir ou que ma maîtresse veuille vous demander son retour, tant que M. Champfort sera le maître absolu de la maison. Oh, si ce n'est que cela, dit Lord de la cour, vous pouvez annoncer à votre maîtresse que je vais renvoyer Champfort sur le champ. Le coquin vient d'être insolent avec moi. Je veux lui prouver que je suis le maître chez moi. Je courus rapporter cette assurance à Milady, qui demanda aussitôt ses chevaux, son écritoire, et vous écrivit quelques mots d'une main tremblante. Je pris sa lettre et je la quittai, en l'assurant que j'espérais vous ramener. Comme Mariette finissait ses mots, Belinda entrait dans sa chambre. Elle décacheta la lettre. Ce n'était plus cette éloquence de billet. Son esprit paraissait affaibli par ses souffrances physiques et se terminait par ces mots. « Je sens ma fin approcher. Peut-être ma chère Belinda se rendra-t-elle à ma dernière prière et me permettra-t-elle de la voir encore une fois avant que je meure ?» Belinda résolut de partir aussitôt. Elle était pressée de quitter Lady Anne et son aimable famille. Les enfants l'entourèrent et fondirent en larmes quand ils apprirent son départ. M. Vincent demeura interdit. Mais évitons à nos lecteurs les détails touchants de cette séparation. Miss Portman promit de revenir à Oakley Park aussitôt qu'elle le pourrait. M. Vincent lui demanda la permission de la suivre à la ville. elle le lui défendit expressément, et il obéit à cet ordre avec autant de soumission et de grâce qu'on pouvait l'espérer d'un amant qui voyait s'éloigner le moment de son bonheur.